trying to stop the flow. Starting to feel it will never go where I want it. La 17e édition de MuTech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutech.org.
Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Pop en Stock, c'est l'épisode 98 et ce soir, on parle de Bob Dylan. Nous, on préenregistre, en fait, on est le 24 mai et c'est vraiment le fun parce que c'est la fête de Bob Dylan aujourd'hui. Il est né le 24 mai 1941, donc c'est le 75e anniversaire du Troubadour. Bonne fête, Bob, même si tu nous écoutes pas, ça me surprendrait. Je dois vous avouer, je suis connue et reconnue comme étant une espèce d'encyclopédie du rock là, qui connaît vraiment beaucoup ça, mais je connais très, très peu Bob Dylan. Et je suis vraiment donc très contente d'avoir deux experts et deux connaisseurs avec moi. Blaise Guillotte.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Excellent.
Bonne fête, Bob.
Bonne fête, Bob. Et Simon Laperrière.
Bonjour, Hélène. Bonne fête, Bob.
Je vais quand même, même si je ne connais pas beaucoup l'œuvre de Bob Dylan, je connais quand même son importance dans l'histoire de la culture rock et de la musique rock aussi. Bob Dylan est une espèce de, comment dire, forme une espèce de trilogie avec les Beatles et les Rolling Stones comme ayant vraiment formé les valeurs importantes de la culture populaire. Et Bob Dylan, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est au niveau de l'authenticité, quelque chose qui a vraiment beaucoup... qui a vraiment beaucoup fait. Il a commencé à la fin des années 50, début années 60, dans les petits cafés de New York. Il a repris beaucoup de... En fait, il reprenait des chansons folk traditionnelles, très influencé aussi par le country. Woody Guthrie, c'est son idole de tous les temps.
Avec qui il a collaboré?
Oui, il a collaboré, oui, je pense.
Sur ses derniers, enregistrements. Et Bob Dylan était d'ailleurs allé... a vu Woody Guthrie sur son lit de mort, mm-hmm. ce qui était un moment très influent sur son parcours créatif.
C'est dans le film I'm Not There, d'ailleurs, ça.
Tout à fait.
Repris, on va en parler tout à l'heure.
Je crois qu'on va en parler beaucoup.
Oui.
Il y a beaucoup d'éléments dans ce film-là.
Oui, tout à fait. Durant cette période-là, bon, ça reprend des chansons du folklore américain, finalement. Donc, il y a tout un following qui se crée autour de lui. Cette période-là, cette scène-là aussi, qui est très influencée par les beatniks, la scène beat. Donc, c'est d'être une espèce d'artiste hip, un peu détaché de tout, mais avec un sens de la communauté très, très fort. Donc, c'est tout le pôle de l'authenticité romantique qui est créé à travers ça. Il y a, avec le recul, on peut s'apercevoir, en fait, que je n'ai déjà parlé dans l'épisode sur les synthétiseurs, qu'il y a deux grandes catégories, si on peut dire, un grand pôle, en fait, un continuum entre... qui se partagent... Il y a deux authenticités qui se partagent un peu. L'authenticité romantique et l'authenticité moderniste. Et Bob Dylan, avec ses premières armes comme ça dans les cafés de Greenwich Village, est en train vraiment de former c'est quoi être un authentique de manière romantique, si je peux dire. Donc, il y a tout, c'est ça, il y a des amis qui se créent, c'est toute une communauté. Ils se font chanter entre... Ben, ils se font chanter entre eux, c'est très mal dit, mais ils s'invitent entre eux pour chanter des chansons. Ils composent aussi les chansons l'un pour l'autre. Bob Dylan a fameusement composé pour The Birds, Mr. Tambourine Man, que Simon aime beaucoup.
Mais c'est pas une chanson qu'il a composée spécifiquement pour The Birds.
Non, OK, je pensais que c'était spécifiquement pour The Birds.
Je,
okay.
je crois pas. Je pense que ça a été d'abord et avant tout une chanson originale que The Birds ont repris.
Ah, OK.
Parce que Dylan est aussi l'artiste le plus repris.
Oui, c'est l'artiste le plus
du 20e siècle.
Oui.
Et probablement du 21e.
Ah.
Probablement encore maintenant.
Oui, 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 ça fait ça, seulement 16 ans.
Au nombre d'albums et de chansons qu'il a fait,
c'est plausible.
Que
oui.
Ce soit encore le plus repris.
Puis le fait que c'est devenu un canon aussi.
Exactement,
là.
Oui, tout à fait.
Et donc, c'est ça, il y a des chansons qui se font et, oui, qui sont souvent reprises. Et Bob Dylan, en 1963, devient déjà une espèce de superstar du monde folk. Et c'est un peu extraordinaire ce qui se passe à ce période-là.
En fait, c'était le sauveur de la musique folk. Mm-hmm. C'était comme ça qu'il était perçu par ses admirateurs parce que le genre commençait à perdre de sa popularité. Et là arrive Dylan, ce jeune poète qui sort de nulle part, qui vient d'un tout petit village.
Du Minnesota.
Du Minnesota.
Mm-hmm.
Minnesota, oui. Et alors là, c'est juste ça, c'est l'objet d'une légende. Là. Le jeune qui arrive avec sa guitare sur lequel il est écrit This Can Kill Fascists et qui avait son appareil particulier pour pouvoir jouer
de
la guitare.
En fait, c'est un espèce de harmonica holder.
Exactement. Ouais. Déjà là, pour les amateurs du folk, c'est pas tant un chanteur qui arrive sur scène, c'est une figure.
Mm-hmm.
C'est un héros, justement.
Oui, mais qu'est-ce que c'est vraiment important de qu'est-ce que tu as dit, c'est que il y a c'était une scène qui commençait comme dès qu'elle a commencé à être hip, elle a commencé donc à perdre de sa popularité parce que tu peux pas garder ce double statut d'être vraiment à la mode, d'être vraiment très très tendance et à être populaire en même temps.
Ouais.
Et qu'est-ce que Bob Dylan a fait? Il a décidé de s'électrifier. En 1965, au fameux festival de Newport. Là, il y a plein d'histoires sur ce moment. La légende veut qu'il ait été hué jusqu'à temps qu'il sorte de scène. Même j'ai lu qu'il pleurait en sortant de scène. Ça me surprendrait, oui. Personnellement.
Qu'il a fait... Dylan pleurait ou
les... Oui, oui. Non,
Dylan. Je sais qu'il y avait des spectateurs qui
pleuraient. Oui.
Ben, Dylan, ça.
Oui. Moi aussi, ça me surprendrait.
Ouais. Ben, un concert par la suite, ça fait traiter de Judas,
oui.
Sur scène.
Oui, oui, ça, on l'a
dit. Mais ça, l'enregistrement existe.
Exactement,
ça,
c'est ça que j'allais dire.
Todd Haynes n'a pas inventé ça. Mais je pense qu'il a très bien illustré ce spectacle-là avec Dylan qui monte sur scène avec ses musiciens armés de mitraillettes.
Ouais.
Il tire,
mm-hmm,
sur le public. C'est exactement ce qu'il a fait.
Mm-hmm.
Dans le fond, il a voulu se débarrasser du statut qu'on lui donnait.
Oui, c'est ça. En fait, il faut savoir même qu'il est arrivé sur scène habillé à la Beatles, donc habillé avec la mode anglaise. Les Beatles commençaient à cette époque-là, en 1965. Là, il y avait les premiers hits. Ça faisait deux, trois ans en fait, qu'ils fonctionnaient déjà un peu, les Beatles. Mais c'était un énorme statement d'arriver électrifié, habillé autrement. Et en 1966, un an plus tard, il y a son accident de motocyclette qui fait en sorte qu'il disparaît.
Et quel groupe a suivi ensuite l'exemple de Dylan? Et son, on fait pas assez souvent le parallèle. C'est U2 avec de Joshua Tree et Atom Baby. Ils,
oui,
ont fait la même chose.
Mais si on parle de personnes, de groupes ou de musiciens qui changent après une couple d'albums, on peut en parler. Il n'y a pas juste U2. On peut parler vraiment beaucoup de groupes.
La réaction que le public, que les fans de U2 ont eue à Tongue Baby
est
assez similaire à celle que Bob Dylan a eue. Il y a vraiment des admirateurs de la première heure pour qui de Joshua Tree, c'était le sommet de leur carrière. Quand arrive avec Tongue Baby, il y a le gros album de rock alternatif le groupe change complètement son look électronique. Eh bien, ils les ont abandonnés, ils ont quitté la salle.
Ah oui, que moi j'ai commencé à aimer U2 avec Acting Baby, donc.
Comme il y a des fans de Dylan qui se sont intéressés à,
oui, oui,
à partir
vrai,
de sa carrière électro.
Et donc, avec ce move-là vers l'électrification, vers vraiment un changement, Bob Dylan a inventé, si on peut dire, presque, en tout cas avec d'autres protagonistes, mais a vraiment beaucoup formé l'autre pôle de l'authenticité, c'est-à-dire l'authenticité moderniste, où on joue avec les sons, on joue avec le personnage, on affirme vraiment qu'on est un personnage qui est en train de se construire, surtout de se mettre en scène, voilà, merci. Et que là, il y a... Le, on fait plus une critique de la société, que c'est moins dans une espèce de mouvement, de foule, de communauté, comme oui, on peut tuer les fascistes, on peut comme renverser le pouvoir, c'est plus on va essayer de faufiler, ou encore des aussi les fameuses chansons sur la sexualité là, qui reviennent tout le temps aussi, sont très, très populaires dans le rock. Et puis Bob Dylan a fait Lay Lay Delay aussi à peu près suite à
son accident. C'est pour ça que la voix aussi
bizarre,
différente,
hein,
de ce qu'on est habitué d'entendre de lui. Mais aussi, ce que tu dis là-dessus, c'est que Bob Dylan a toujours refusé de s'exposer vraiment publiquement. Il a toujours été très évasif sur sa vie privée, à un point tel qu'il en vient à brouiller les pistes. Et le meilleur exemple de ça, c'est son Chronicles Volume 1, donc le premier livre d'un projet d'autobiographie dont on attend toujours la suite, oui. Et va-t-elle se faire un jour?
À savoir, Blaise l'a apporté, c'est pour ça que je fais une exclamation.
Blaise, tu vas être d'accord avec moi, c'est un livre très curieux parce que Dylan, on n'a pas l'impression qu'il nous ment, on n'a pas l'impression qu'il invente des faits, mais les faits qu'il retient, ce sont des anecdotes.
Oui.
Donc, il va parler
d'un
restaurant où il est allé. Okay. Il y a un très beau chapitre sur l'enregistrement de Oh Mercy avec Daniel Lanois, donc album très important dans la carrière de Bob Dylan. Et plusieurs pages portent sur une émission de radio qu'il écoutait la nuit.
OK.
Et que faire de ça? Oui, le pacte autobiographique là-dedans, ça l'a surpris plusieurs lecteurs, alors que moi, personnellement, qui aime beaucoup Bob Dylan, c'est à travers ça que je le reconnais le plus.
OK. Donc, c'est en quelle année que ça a été publié?
Ça a été publié en
2003, peut-être.
OK.
Comme ça. Ben, peut-être une dizaine d'années.
Un truc qu'il fait dans le livre, par exemple, c'est qu'il parle toujours de « my wife ». Mais si on connaît la biographie de Dylan, on sait que, compte tenu des différentes époques que le livre aborde, ben, sa wife, ce n'est pas toujours la même. Mais elle n'est jamais nommée.
Okay.
Donc ça, c'est quand même intéressant comme posture par rapport à sa propre vie.
Mm-hmm.
Mais il y a quand même, je trouve, dans le livre, une certaine nostalgie. Où il ment pas, mais c'est un mensonge nostalgique où là, tout d'un coup, la musique folk pour lui est la chose la plus extraordinaire, la plus sublime, alors que justement, il l'a comme trahi d'une certaine manière. Puis il l'a fait. C'est pour ça que je serais un peu étonné qu'il soit parti en pleurant, parce que c'est sûr qu'il savait ce qu'il faisait.
Oui, complètement. Moi aussi, ça m'étonnerait vraiment beaucoup.
Bien. Alors, à la limite, s'il pleurait, c'était du chaud aussi. Donc, tu sais, tout ce rapport-là à la musique folk qui était très tendue, qui a renié, parce qu'il voulait pas justement faire partie, il voulait pas être le leader ou le messie de quelque chose. Et là, tout d'un coup, qu'il valorise absolument. Donc, c'est drôle, cette espèce de double rapport qu'il peut avoir avec sa propre histoire.
Bien sûr. Mais même en entrevue, Dylan, c'est l'artiste qui a toujours refusé les compliments. Quand on lui dit que c'est le plus grand chanteur de l'univers, il se
refuse.
C'est
pas un grand chanteur, je suis désolée.
l'un des plus grands poètes. Quand on lui parle de la possibilité de remporter un prix Nobel, alors là, il se referme comme une huître, il refuse d'aborder ça. Dylan, en entrevue, c'est parmi les choses les plus hermétiques au monde. Il répond à peine aux questions.
Oui, c'est vrai qu'il y a une réputation d'être difficile. Puis j'ai lu aussi un chapitre dans un livre qui s'appelle Between Montmartre and the Mud Club, où l'auteur Bernard Gendron parle de comment la musique populaire et l'art se sont comme rencontrés à plusieurs époques. Et la période Bob Dylan, justement, comme la période intéressante, il y a plein de périodes intéressantes, mais la période un peu cruciale est celle qui a été canonisée, 1963, 1965-66. C'est la période où les premiers commentateurs de musique populaire, les premiers journalistes commençaient à dire « Oh, il y a quelque chose qui se passe là, qui est différent de ce que Elvis faisait il y a 10 ans. Il y a les Beatles, il y a le Rolling Stone, il y a la côte ouest, tout le rock psychédélique. » Et c'est beaucoup à travers ces journalistes-là que le rock est devenu un art. Et Bob Dylan, c'était un des protagonistes les plus importants qui étaient commentés, notamment à cause... Justement, à cause de son association à la musique folk, au mouvement folk, qui avait déjà une espèce de chape artistique autour, à cause de son association aussi avec les beatniks, et à cause justement aussi de cette posture qu'on ne savait jamais exactement où c'était l'artiste de musique populaire à l'époque était le plus l'art pour l'art, art for art's sake. Il était déjà reconnu à l'époque comme étant comme ça. Donc, chapeau Bob Dylan. Et bonne fête encore, je pense qu'on va le répéter. Comme bonne fête.
75 ans.
75 ans. Qui vient de sortir un album. J'espère qu'il ne va pas mourir dans 3 jours, là, comme David Bowie. Là.
J'ai vu en concert il y a peut-être 15-20 ans. J'étais sûr qu'il lui restait 2-3 ans. Il est encore là, puis il fait encore de la bonne musique.
Oui, puis un look vraiment intéressant avec sa petite moustache.
Ben, on peut dire quelques mots sur son nouvel album, Fallen Angel. Je sais pas si vous avez eu la chance de l'écouter, mais c'est magnifique.
Oui.
Et quand tu parles de romantisme, et là, on est à son summum avec Dylan qui reprend Frank Sinatra.
Ah oui.
Ces deux derniers albums, ce sont plus des compositions originales. Il reprend le crooner.
OK, on va écouter une chanson d'ailleurs de son dernier album tout à l'heure, mais pour le moment, on va écouter Ballad of a Thin Man, une chanson de son époque canonique.
You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. Say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak. And says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Facts when someone attacks your imagination, but nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax deductible charity organizations. The professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. Says, here is your throat back. Thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now you see this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, you walk into the room like a camel, and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. 'Cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
Go! Donc, on a parlé de la, du fait, justement, on a déjà abordé le fait que Bob Dylan est une personne qui joue avec les conventions de la mise en scène, se fabrique beaucoup, et c'est ça dont Blaise va nous parler.
Oui, bien, c'est ça. En fait, moi, c'est depuis l'âge de peut-être 13-14 ans que j'ai découvert Bob Dylan. Et évidemment, sa musique, ça m'a beaucoup touché, mais c'était vraiment le personnage, moi, qui m'a fasciné profondément. C'était justement révolté, révolutionnaire et tout, mais qui, en même temps, jouait sur plusieurs niveaux et tout. Mm-hmm. Il y avait quelque chose là-dedans qui me fascinait beaucoup. Outre sa musique, parce que sa musique est très bonne, mais je ne suis pas un historien de la musique. J'ai joué du piano quelques années, là, mais tu sais, je ne suis pas un expert là-dedans. Donc, moi, c'était plus vraiment les textes et le personnage, Bob Dylan. Et justement, quand j'étais jeune, j'ai lu beaucoup de biographies qui ont été écrites sur lui. Et là, j'étais un peu estomaqué parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient complètement différents.
D'une biographie à l'autre. Ah, oui, oui.
Biographie à l'autre et qui se contredisaient. Là, je me disais, ben voyons, c'est quoi, c'est des gens qui manquent de regard ou je sais pas. Mais en fait, non, tu sais, c'est pas tant ça. C'est que Dylan, justement, lançait sur plusieurs pistes, a menti sur bien des affaires de sa vie. Et je pense que c'était tout à fait conscient. Là. Je pense pas que c'est une maladie psychologique. Là. Mm-hmm, mm-hmm. Parce que, justement, c'est quelqu'un de très privé, où sa vie privée, on peut très peu y entrer. Mm-hmm. Et qui donnait pas accès à ça. Puis moi, je juge pas ça du son, on peut très bien le comprendre. Et qui a joué avec les médias, qui a joué avec le public, qui a joué avec ça. Donc, dans un certain sens, ça fait de lui un grand artiste, mais vraiment...
Avec un grand A.
Avec un grand A, là, parce qu'il a fait de sa vie une œuvre d'art.
Oui.
Là, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut reprocher là-dedans, là, puis qu'on peut critiquer. Mais quand même, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, c'est la célèbre phrase d'Arthur Rimbaud, « Je est un autre ». Et Rimbaud était une inspiration profonde de Bob Dylan, comme Kafka l'était aussi. Donc, c'est des gens qui ont joué dans son imaginaire et dont il s'est servi beaucoup. Et d'ailleurs, sa jeunesse, où il a eu ce contact-là avec ses premiers artistes-là, il y a eu plein de rumeurs sur cette jeunesse-là. C'était un orphelin qui a été élevé avec des sioux. Ou sinon, c'était un orphelin qui a grandi... Ben, pas un orphelin, mais il a grandi dans un carnaval.
Une fête foraine.
Une fête foraine, exactement. Puis dans I'm Not There, il y a une référence à ça, où le personnage de Richard Gere, qui est en fait Billy the Kid, qui est une autre inspiration de Dylan, passe dans un carnaval et voit tout ça. Ça fait une référence à ce contexte-là de l'enfance de Dylan, qui est absolument faux. Là. Dylan, justement, grandit adulte au Minnesota, dans une famille de classe moyenne, bien normale, tu sais, avec ses défauts comme nos familles, rien d'exceptionnel. C'est un enfant qui est éduqué, qui est somme toute assez sage. Il y a aussi des rumeurs comme quoi il faisait plein de feu, qu'il vivait dans la rue. Ça aussi, grosso modo, c'est assez faux.
En fait, son vrai nom même, c'est Robert Allen Zimmerman.
Oui, tout à fait. C'est Robert Zimmerman. Mm-hmm. Bon, c'est, puis Dylan serait une référence au poète...
Thomas Dylan.
Exactement.
Dylan Thomas, je me rappelle.
Dylan Thomas.
OK, merci.
Dylan Thomas et... bon, ben Robert, Bob, là,
c'est correct. Directif,
mais en même temps, il cache aussi toute sa judéité là, là-dedans.
Oui,
on
tout
y
tout
reviendra,
fait.
Là, mais mm-hmm. qui va reprendre d'ailleurs dernièrement. Là, là, il est full juif. Là,
ah oui, OK.
Mais il est passé par toutes les religions avant, donc on y reviendra. Mais donc, c'est ça. Toute sa jeunesse, elle est très controversée. Puis justement, en 1962, il y a un journaliste, en 1963, il y a un journaliste, Walter Eldot, qui va écrire un article dans le Daily Times où okay. il dit, mais c'est complètement faux, toutes ces histoires-là.
Donc, déjà, OK.
Oui, déjà, mm-hmm. c'est tôt, là. Mm-hmm. Puis c'est un petit gars de la classe moyenne, il n'y a absolument rien de révolutionnaire. C'est un petit bourgeois, là, qui s'amuse à se la faire, tu sais. Alors, il va vraiment rentrer dedans. Et on le voit aussi, ça aussi, dans I'm Not There, dans, il y a un journal, quand c'est Kate Blanchett qui joue oui. un des personnages de Bob Dylan. Et d'ailleurs, c'est le journaliste qui est dans la limousine, qui le confronte sur des choses et qu'on voit dans Ballad of a Tin Man qui se promène dans cet univers-là.
Okay.
Et on comprend que c'est probablement ce journaliste-là qui a attaqué très sévèrement Dylan.
Et ça a été contredit par Dylan, par contre.
Oui.
Il a dit, je parle pas de ce journaliste-là. En fait, il affirme, et ça, c'est quand même élégant, pour cacher la vérité, qui s'en souvient plus.
Ah,
il disait,
oui.
tous les journalistes étaient pareils à cette époque-là. Je peux pas vous dire, je parlais duquel spécifiquement.
Oui, c'est ça. Ben, parce qu'après ça, ça a été repris par d'autres journalistes qui ont continué à enquêter.
Puis bon, on va tous être le Tin Man. Ben,
c'est ça, exactement. T'sais. Puis moi, je m'en fous à savoir ce qui est vrai ou pas vrai. C'est un chanteur, là. Je veux dire, c'est pas, il dirigeait pas les États-Unis, là. C'est pas grave, là. Mais puis je trouve ça intéressant, justement, qu'il ait joué là-dessus énormément. Donc, tu sais, il y a tout ce rapport-là, justement, où il se met en scène très tôt, en fait. Très tôt. Et même en 1965, il va faire une entrevue dans une revue vu qui s'appelle Village. Bon, moi, personnellement, je ne connais pas. Peut-être que c'était très connu à l'époque. Et on voit que déjà, il se fait une mythologie, là. Il se positionne.
Mm-hmm, oui.
Le journaliste lui demande qui sont tes influences. Alors, il va dire Hank Williams, qui est un chanteur oui, country oui. énorme de l'époque. Bon, mm-hmm. on voit la référence. Marlon Brando, qui est l'acteur mm-hmm, hot mm-hmm. de l'époque, un peu rebelle. Et, là, là.
Oui,
et après ça, il dit deux choses très, très, très un peu surprenantes, où il va parler de Captain Marvel, que moi, je ne connaissais pas du tout, Captain Marvel, et de Clark Kent. Hank Williams, maintenant on comprend, mais là, pourquoi il nous sort deux super-héros Captain Marvel qui est...
Alors qu'il ne veut pas être un messie, hein?
Non, c'est ça. Mm. Mais là, c'est ça que c'est intéressant parce que... Captain Marvel, moi, je ne le connaissais pas. Alors, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, je pense que Clark Kent, on sait tous, c'est super ça va. Captain Marvel, c'est un super-héros qui existe encore...
Oui.
Mais c'est pas le même, c'est dans les années 40. Il s'appelle en fait Shazam et il va être récupéré par Marvel après. Là.
Okay.
Et c'est un petit garçon qui peut se transformer en adulte super-héros. Qui devient un super-héros et tout. Dans les années de Bob Dylan, il est plus très populaire, mais dans les années 40, 50, alors que Bob Dylan est plus jeune, il est pratiquement aussi, sinon plus populaire que Batman, Superman et tout ça.
Okay.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit précisément... Il dit les noms Captain Marvel et
Clark Kent.
Donc, ce n'est pas Superman. Alors, c'est dans tous les cas, c'est le faux, en fait, qu'il l'aime.
Oui, oui.
C'est pas le petit gars, c'est pas Billy Patterson, je pense qu'il s'appelle, c'est pas le petit gars, c'est celui qui devient l'héros. C'est le
et
Captain
c'est pas
Marvel.
Superman, c'est Clark
pas Superman,
Kent.
C'est celui
c'est
qui
son
est le
avatar.
Faux. C'est l'avatar. Donc, il y a l'espèce de pastiche. De ceux qui l'ont inspiré, c'est les pastiches. Mm-hmm. C'est pas les vrais, là. Donc, il y a déjà quelque chose, là, qui met en scène où il y a une espèce de mythologie. Tu sais, c'est un héros, mais c'est pas le héros, justement. C'est le pastiche du héros. C'est pas le vrai, tu sais. Puis là, ben, évidemment, il y a le scandale de la guitare électrique
oui.
là, dont tu as parlé. Mais qui participe, encore une fois, à la mythologie, comme tu l'as dit, là, qui participe à cette espèce de changement paradigmatique de l'authenticité. Si Mais là, il change, là, encore une fois. Il change sa mythologie, il s'en va ailleurs.
Mais je trouve ça extraordinaire que, même à l'époque, il était folk... Qui joue comme ça sur les codes, alors que la culture folk me semble être une culture qui ne joue pas sur les codes.
Non, c'est faut très que traditionnel.
Sois, c'est ça. Faut que tu sois authentique dans le sens traditionnel du terme. Faut que tu respectes ce qui est là, alors qu'il y avait l'air déjà, selon ce qu'on voit à rebours, de s'en foutre puis de niaiser, là, de troller. Là,
mais aussi parce que Bob Dylan, c'est une éponge à référence. Oui. Il y a certains, ceux qui s'intéressent aux fans de Bob Dylan, qui sont des personnages tout aussi excentriques que leur idole, il y a un très bon livre qui s'appelle The Dylanologists,
okay.
qui sont une série de portraits avec des fans complètement zélés. Et il y en a un qui s'est mis en tête de faire une sorte de wiki de Bob Dylan, okay. de prendre oui. chaque chanson et de tirer chaque référence. Et on s'entend que c'est immensément long. Mais on s'entend compte qu'il ne se réfère pas qu'au folk, qu'à Woody Guthrie. Et parfois, il y a même des références un peu étonnantes. Dans Modern Times, avait surpris tout le monde. Sa première chanson de qui parle, Alicia Keys.
Ah!
Et on lui a même demandé en entrevue, mais vous, Dylan, pourquoi parlez-vous d'Alicia Keys? Et il dit, ben, je l'ai vue à la télé, puis... Je la trouvais belle.
Ben, c'est sûr. Moi, je pense que le génie de Dylan, outre sa musique, là, le génie de Dylan, il a compris son temps parfaitement. Là. Il sait où il est. Mm-hmm. Il sait entre quoi il est. Comme il voit ce qui s'en vient. Il sait ce qui est passé. Puis, encore une fois, comme dirait Rimbaud, il est absolument moderne. Mm-hmm. Absolument. Mm-hmm. Puis Rimbaud aussi, dans une de ses lettres, dit « Je suis un voyant. Je vois oui. ce qui s'en vient. » Alors, tu sais, il y a vraiment là, des parallèles. Et d'ailleurs, dans le film I'm Not There aussi, il y a un poète qui est là. Mm-hmm. Il s'appelle Arthur là, quand on va dans.
Pas qui est joué par Heath Ledger.
Non, pas celui par Heath Ledger, celui par Ben Whishaw. Ben,
oui, il me semble ça, oui.
Oui, c'est ça. Ça
exactement.
Oui.
Qui est le poète, c'est ça, qui est Arthur Rimbaud d'une certaine manière. Okay. Donc, c'est ça qui est beau dans I'm Not There, c'est toutes les références justement à Bob Dylan qui sont énormes. Mm-hmm. Et. Là où c'était. Donc, c'est ça. Donc, dès sa jeunesse, oui, il va jouer sur là-dessus, il va bâtir sa mythologie. Il se crée déjà. Puis, tu sais, peut-être que tout ce que le journaliste là, a sorti sur la bonne famille et tout, c'est peut-être pas tout vrai, absolument. On le saura jamais. Mais on voit bien que Dylan est quelqu'un de très cultivé. Là.
Oui.
C'est quelqu'un qui a eu une éducation. Je veux dire, c'est pas que j'aime pas les Sioux, là, mais si tu passes ta vie avec des Sioux dans le bois, pas sûr que tu vas voir Arthur Rimbaud puis tu vas avoir des comics chez toi. Donc, on voit que c'est quand même quelqu'un de très éduqué à la base. Là.
Ben, lui, ce qu'il raconte dans Chronicle, c'est qu'il était resté à New York chez des amis qui possédaient une immense bibliothèque, qu'il aurait passé tout son temps à lire parce qu'il était sans emploi, donc il passait énormément de temps à lire. Et d'ailleurs,
c'était avant Internet.
Exactement, et on les découvre ces références à Dylan dans Chronicles. Il parle de Dante, il parle de Balzac. Je pense qu'il a eu des mentors, assurément, qui l'ont guidé dans ses lectures. Et j'ai l'impression qu'encore maintenant, c'est quelqu'un qui lit beaucoup.
Tout à fait. Mm-hmm. Il dit à un moment donné que Balzac est un être très drôle et très cool. C'est vraiment...
Oui, à boire 88 cafés par jour, c'est ça, oui certainement. Oui.
Tout à fait. Et puis même encore aujourd'hui, Dylan, justement, continue à se mythologiser ou à se créer son propre mythe. Et là, de plus en plus, il est dans cette espèce de nostalgie.
Oui.
Dans l'espèce d'Amérique rurale. T'sais, il a toujours son chapeau de cow-boy un peu, justement avec sa moustache. Il joue sur le folk country, vieille Amérique rurale, mais en même temps, toujours en court-circuitant un peu. Là,
Bien, si c'est Frank Sinatra qui reprend sur son dernier album.
Exactement. Je sais que dans plusieurs derniers concerts qu'il a fait. Moi, j'en ai pas vu dernièrement. Le dernier, c'était il y a plusieurs années. Mais il arrive sur scène avec un grand drapeau américain.
OK.
Et il y a une fanfare qui joue. C'est Fanfare for a Common Man qui a été fait aux États-Unis dans les années 40 et qui était en fait un ode militaire. Mais finalement, c'est Copeland, je crois, le compositeur, a décidé d'appeler ça Fanfare for a Common Man. Mais c'est encore une fois toute la mythologie Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Amérique patriotique, nationaliste, patriotique, qui s'en va en guerre et tout. Et là, tu vois Bob Dylan qui arrive dans le drapeau américain puis une fanfare militaire. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il fait, là? C'est pas le gars qui chante Masters of War ou qui The Times They Are Changing. Il y a vraiment quelque chose là, qui est étrange. Mais... Puis c'est ça. Il est présenté là, comme le Bob Dylan, la légende, le mythe. Là, et il rajoute à ce mythe-là, il rajoute à cette légende-là de manière absolument brillante, là, d'ailleurs. Là,
et il va pas s'empêcher pourtant de surprendre en étant parfois sincère, en ouvrant un tantinet son jardin secret. Je pense à la chanson sur John Lennon, sur l'album Tempest, qui est un hommage à un artiste, mais qui était avant tout son ami. Et écoutez ça, là, on a vraiment l'impression, Dylan décide d'aborder de plein fouet un moment de sa vie qui l'a marqué, une perte qui a été... Visiblement, on écoute la chanson.
Audiblement.
On la regarde pas. On sent vraiment l'amitié et le manque qui l'habite depuis que Lennon nous a quittés.
OK. Ça va, moi, je vais avouer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je connais. C'est en quelle année, ça? Fait que je
pose des questions. Tempest, on parle de 2014.
OK, donc 2014, c'est tout récent. 2015, donc ça fait quand même 34 ans donc, après la mort de John Lennon.
Et c'est ça qui étonne. Puisque ça lui a pris 34
oui,
ans
oui, tout à fait.
Pour aborder ça.
Les chansons sur John Lennon sont plutôt sorties en 1981-82, en effet.
Exactement. et je pense que c'est ce qui est toujours bien avec Dylan, c'est qu'on pourra toujours décrire sa carrière avec, au moment où on s'y attendait le moins, okay, ben ouais. Dylan a fait ça. Mm-hmm. C'est quand même un artiste qui a enregistré une chanson avec Wyclef Jean. Il est monté sur scène avec les Rolling Stones pour faire Like a Rolling Stone.
Ah, ben oui. Il a fait un vidéoclip, là, comme un an, je pense, l'année dernière, ou deux ans. Il a fait son premier vidéoclip, ou quelque chose comme ça, pour Like a Rolling Stone.
Ah oui.
Qui était excellent, d'ailleurs. En fait, on pouvait changer. C'est un vidéoclip interactif. On pouvait changer les canaux de télévision, puis il y avait tout le temps quelqu'un qui faisait du lip-sync, finalement, sur la chanson. Puis, en attendant, mettons, il y avait, je pense que tu me rappelles bien, il y avait un de ces canaux-là, c'était une espèce de mise en scène de The Real Housewives of... je sais pas quelle ville. Puis là, ces femmes-là font du lip-sync sur Like a Rolling Stone, qui est une chanson très... qui est pleine de venin, vraiment, envers une figure... Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que j'ai lu? Envers une figure de la factory de Warhol, donc cette espèce de petite fille là, qui ont été propulsées dans une espèce de gloire vide un peu, qui se retrouve avec plus rien après une couple d'années. Et voir si les Housewives, justement, faire du lip-sync là-dessus, ça donne vraiment une autre dimension à cette chanson-là. Mmh.
Jeune fille sur laquelle j'oublie le titre, mais il y a un film sur...
C'est pas Eddie Sedgwick? Mais ça, c'est la plus connue des Factory Girls, mais...
Oui, c'est celle, ouais. C'est celle qui est décédée de façon assez tragique. Il y a un film qui a été fait sur elle, dans lequel un personnage qui n'est pas nommé Bob Dylan apparaît, mais c'est assez évident que c'est lui. Et d'ailleurs, Dylan, c'était plein de ce film-là en affirmant qu'il était mal représenté et que c'était évident que c'était lui. Personne ne pouvait se dire « Ah, mais non, c'est peut-être une réinterprétation de quelqu'un d'autre. »
OK. En tout cas, ça joue sur la question du mythe, ça.
Oui, oui. Puis même aussi dans les interprétations de ces chansons, quand on parle de Mr. Tambourine Man, où on voyait de la drogue ou je ne sais pas trop.
Dans une entrevue,
il dit « Mais non, c'était un de mes musiciens qui s'appelait... On l'appelait Mr. Tambourine Man, puis j'ai fait la chanson pour lui. » Mais encore là, est-ce que c'est vrai? Peut-être pas. Peut-être que lui, il dit ça, puis voilà, foutez-moi la paix. Mais c'est absolument pas vrai. Là. Donc, il s'est fait par son propre discours de lui-même, il s'est fait une mythologie, mais dans ses chansons même, il a fait un film, moi je ne savais pas, en fait, j'avoue l'avoir appris en faisant des recherches, il a fait un film en 2003 qui s'appelle Mask and Anonymous. Il y a un cast absolument hallucinant là-dedans.
Mais c'est le réalisateur, donc?
C'est le scénariste.
Le scénariste, il joue le premier rôle.
Il joue le premier rôle. Il y a Penelope Cruz, il y a Ed Harris, il y a John Goodman, Val Kilmer. Il y a quand même des gros canons. Ben, les critiques étaient très, très, très négatives. Là. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas...
C'est pour les dylanophiles.
C'est
un film qui est très curieux, mais qui fait énormément de sens dans le parcours artistique de Bob Dylan. Mm-hmm. Et encore là, j'imagine que c'est ça que tu allais dire, le titre dit tout, Masked and Anonymous. Alors, c'est Dylan qui ne joue pas son propre rôle, mais qui chante ses propres chansons.
Et qui est joué par quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un qui fait un genre de Bob Dylan qui est...
Ça, c'est Reynaldo and Clara qu'on va aborder fin d'émission. Là, Dylan brouille vraiment les pistes par rapport à... Est-ce que c'est un film autobiographique? Est-ce qu'au contraire, on est dans le registre de l'autofiction? Ouais. C'est impossible à savoir. Et pour revenir sur le sujet des interprétations de ses chansons, eh bien là, c'est la boîte de Pandore qu'on ne sait pas être comme, par exemple, une chanson que nos auditeurs vont connaître à cause d'Adèle, Make You Feel My Love. C'est une chanson de Dylan. On s'entend pour dire que c'est une chanson d'amour. Eh bien, il y en a d'autres qui disent non, c'est une chanson sur le Christ. C'est le Christ qui s'adresse. Mais ça fait sens.
Parce que toutes les... Non, mais Christian rock, là, t'as juste enlever le mot Jesus, puis tu mets you, puis ça fait des chansons absolument d'amour régulières.
Avec Dylan qui a fait du gospel, ça pourrait encore plus.
Oui,
parce qu'il a fait des albums.
Oui, c'est vrai, le Christian rock.
Oui, absolument. Là, dans sa phase où il devient évangéliste. Là,
qui est généralement sa phase la moins appréciée.
Oui, tout à fait. Il y a des bonnes tunes quand même.
Oui,
sur l'album Saved, il y a des très bonnes chansons. Et après ça, il va virer. Ça fait partie de la. Après ça, il va virer Bouddhisme. artiste un peu. Uh-huh. Et là, il est rendu... Il est redevenu juste, mais encore une fois, là, avec le... c'est pas une secte, là, mais un groupe Shabbat qui est beaucoup plus orthodoxe. T'sais. C'est des Juifs orthodoxes. Okay. Puis il a été vu aussi avec des Mormons, dans des télétons de Mormons. Fait que c'est...
Des télétons?
Ah, oui, il était avec un des fonds. En tout cas, c'est le gars sur qui est basé Big Love. Là. J'ai oublié son nom.
Oui.
Mais il a été un téléton avec lui en l'honneur de ce gars-là. Fait que qui est-il vraiment, Bob Dylan? Mm-hmm. À quelque part, il est profondément postmoderne, là, si on veut utiliser le terme, parce que c'est le flux des identités. Bob Dylan, il l'incarne solide.
Et d'ailleurs, le titre « I'm not there » de Tolkien, c'est un film sur Bob Dylan, mais il n'est pas là. Le sous-titre français, de la traduction française, c'est « I'm not there », les visages de Bob Dylan. Et justement, c'est qu'il y a eu plusieurs Dylan. Et il y en aura des milliers d'autres. Il y a ceux qu'on projette en lui. Ouais. D'un point de vue personnel, moi, je pourrais dire que pour chacun de mes états d'esprit, il y a la chanson de Bob Dylan qui s'y accorde.
Exactement.
Et simplement appréhender les pièces comme ça, c'est se dire, bon, ben, il y a plusieurs Dylan.
Exactement. Puis je pense qu'on peut conclure avec une phrase de Bob Dylan. Je pense que c'est dans « Oh, maman », où il dit « If you're not busy being born, you're busy being dead. »
Oh.
Or you're busy dying.
C'est dans...
Let's go to Dylan and Phil.
Zut.
Ça, c'est pas « Oh, maman ».
« Oh, maman », c'est le refrain, c'est... « Oh, maman, I'm only crying », mais le nom de cette chanson-là, elle m'échappe. C'est... Mauvais fan. Mauvais fan.
En fait, on va écouter « Visions of Joanna ».
Oui.
Tu l'as choisi pourquoi?
Ben, c'est une chanson que j'aime beaucoup de Dylan parce que c'est un peu le côté mystico-folk de Dylan, tu sais, qui a plein d'images, plein de métaphores qui sont... Ouais, c'est ça. C'est l'univers mystico-folk de Dylan, moi, je le trouve dans cette chanson.
Et il y a tout le mystère de qui est Joanna.
Ben, c'est ça.
Parce qu'on pense que ce serait Joanne Bowles qui aurait été à la fois sa muse et sa conjointe pendant plusieurs années. Mais...
On n'est pas sûr.
On n'est jamais sûr de rien.
Donc, Visions of Joanna.
Ain't it just like the night you play tricks when you're trying to be quiet? From the opposite loft. In this room, the heat pipes they cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Joanna, that conquered my mind. The fiddler now speaks to the princess who's pretending to care for him. Oh, Carolina are all that remain.
Cette fois-ci, c'est Simon qui va nous parler d'un film, mais tu as quelque chose à nous dire.
La chanson, c'est « It's All Right, Ma ».
Ah, c'est ça.
Ah, qui est une référence à Elvis? « It's All Right ».
Ah, tu vois.
Qui est un des premiers « It's All Right, hey, oui. » OK, bon.
Tous les liens.
Oui. Donc, tu veux nous parler du film Rinaldo et Clara. On l'a nommé, en fait, justement. C'est un film qui brouille les pistes.
On l'a nommé d'abord. Qu'est-ce que c'est Rinaldo et Clara? Je pense que pour faire la bonne introduction, je vais me permettre de revenir un peu sur le parcours de Bob Dylan
oui.
avec le cinéma en général, qui est un...
Moi, je connais rien, là. Apprends-nous
tout. C'est un peu un territoire de recherche encore un peu vierge. Je trouve qu'on n'a pas encore abordé de plein fouet l'influence que... Ben d'abord, l'influence que Dylan aurait pu avoir sur le cinéma, on s'entend que ses chansons apparaissent dans tellement de films mm-hmm. que ça devient un nombre, ça devient en soi une bibliothèque de Babel de tous les... De tous les nommés. Mais inversement, Bob Dylan s'est énormément intéressé au cinéma et là, je parle en tant que fan, il a écrit la plus belle chanson sur le médium qui est Brownsville's Girl, qu'il a écrit avec Sam Shepard, qui est une chanson très longue, elle dure quelque chose comme 7 minutes, où c'est l'histoire d'un homme qui va raconter les aventures amoureuses qu'il a eues avec des femmes à travers ses souvenirs de cinéma. Donc, pour lui, aller voir un film, ça va lui évoquer des souvenirs. Et simplement ça, c'est la relation que les cinéphiles entretiennent généralement avec le cinéma. Et il va même dire une phrase très belle sur comment définir le cinéma. Il va décrire un film en disant... Il se souvient plus de quoi s'en rappelle, mais « All I know, it was about the way people moved ». Et on sait que le cinéma, c'est l'art du mouvement. Donc, c'est intéressant comme type de description. Et le fait qu'il a écrit cette chanson-là avec Sam Shepard, qui est un homme de théâtre, mais qui mm-hmm. est également un cinéaste, qui est un scénariste, qui est un acteur, fait en sorte qu'on pourrait émettre que « Brownsville Girl », c'est un peu le brouillon de Rinaldo and Clara, ou plutôt la chanson qui vient accompagner ce film-là. Alors, qu'est-ce que c'est « Rinaldo and Clara » C'est un film que Bob Dylan aura produit, écrit, réalisé, monté. Il va y jouer un rôle. Il va évidemment composer les chansons en 1978. Alors, okay. Dylan était déjà très présent dans le cinéma avant ça. C'est pas son premier film, c'est son second parce qu'il avait réalisé un documentaire qui s'appelle Eat the Document. On avait pu le voir comme acteur dans... Pat Garrett and Billy the Kid de Sam Peckinpah. Et d'ailleurs, la légende raconte que Peckinpah ne savait pas qui était Dylan.
Ah oui, oui.
Ce qui est, ça se peut pas. Je m'excuse, ça se peut pas. C'est impossible.
Improbable.
C'est impossible. Je veux dire, ce serait comme si Paul Schrader, quand il a fait The Canyons, ne savait pas qui était...
Lindsay Lohan,
c'est ça. Absolument impossible. Et d'ailleurs, Dylan parle très brièvement de ce film-là dans Chronicles en disant « Tout ce que j'ai fait, c'est monter sur un cheval. »
Mais aussi, durant les années 60, la vedette d'un documentaire par The A.P. and Baker aussi.
Absolument.
Don't
Look Back, dans lequel on a droit à un Dylan efféminé, profondément détestable.
Oui,
la fameuse scène où il essaie de trouver qui a jeté un verre par la fenêtre. Il est furax. Il veut trouver la personne parce que ça se fait pas. Et c'est d'ailleurs le personnage qu'interprète Kate Blanchett dans
Not
There.
Tout à fait.
C'est une copie conforme du Dylan de Don't Look Back. Et donc, c'était pas anormal que Dylan éventuellement reçoive un contrat pour réaliser un long métrage. En fait, ça faisait énormément sens, puisqu'il n'était pas le premier musicien de son acabit à cette tournée vers la caméra. Et il va produire un film d'une durée de 4 heures.
Oh my! OK!
Le film va... avant de plonger quelques détails techniques, si l'on veut, le film va avoir droit à une présentation à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes où, en faisant un peu de recherche, j'ai l'impression que Dylan n'aura accordé aucune entrevue. Il n'aura que présenté le film.
Mais 1978 aussi, c'était une autre époque. Mais quoi que ça devait être déjà le cirque cannois déjà.
C'était déjà assez gros. Et de toute façon, la présence de Bob Dylan à Cannes aurait justifié que des centaines de journalistes se seraient rués orientée vers lui. Mm-hmm. Et curieusement, j'ai presque rien trouvé de son passage au Festival de Cannes, outre une entrevue où il est écrit à la fin. L'auteur a rajouté une toute petite remarque en petite police, entrevue rêvée avec Bob Dylan. Donc, elle n'a jamais eu lieu.
Oui, c'est ça.
Était-elle intéressante?
Elle était fascinante. Absolument fascinante. Absolument fascinante. En fait, j'aime imaginer que Dylan l'a peut-être lu. Elle fait, oh, non, mais c'est parfait, ça.
C'est ça.
Et donc, quand le film va commencer son exploitation en salle, on s'entend que présenter un film aussi long dans une salle de cinéma pour les exploitants, c'est pas du tout intéressant, mm-hmm. parce que 4 heures, c'est perdre 2 séances. Et le producteur va insister à ce que Bob Dylan remonte le film en un montage d'1 heure et demie.
Oh, c'est quand même un défi.
Oui, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, le film comporte plusieurs scènes de concert. Est-ce que Dylan va conserver pour la nouvelle version, la nouvelle mouture? Ce sont principalement des scènes de concert. Donc, ça vient... J'ai pas vu cette version-là, mais j'imagine que c'est un rock film, pas particulièrement intéressant, à part si
ou c'est Bob Dylan qui chante.
Ou c'est ça, oui, exactement.
Selon un rôle. C'est pas...
C'est des images de concert.
OK.
Et Dylan va être très déçu de ce montage-là et va retirer le film complètement du marché. Et on ne peut plus voir Reynaldo
and Clara.
C'est
pour ça qu'on entend. OK, parfait. Bon, c'est pour ça que je n'ai jamais entendu parler.
Dylan a pris le film et l'a mis aux oubliettes, okay. complètement. Mais pour les fans qui savent où chercher, il y a une façon de le voir. Parce que, par un concours de circonstances que parfois on n'explique pas, il s'adonne qu'une nuit... En Angleterre, la version de 4 heures a été diffusée à la télévision. Quelqu'un l'a enregistrée et actuellement, la source que l'on a pour visionner le film sur vidéo nous provient de ce transfert-là. Et c'est très drôle parce qu'on peut voir la place qui était réservée pour les publicités. La qualité d'image et de son n'est pas terrible, mais bon, quand on est fan et que c'est la seule façon de voir le film, on fait avec. Il a eu... quelques présentations en cinémathèque. Le film a joué à la Cinémathèque française, mais de ce que j'ai cru comprendre, parce que je me suis déjà renseigné pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour présenter ce film-là peut-être un jour à Montréal, semblerait qu'il faut la permission de Bob Dylan.
Ah oui?
Donc, il faut se rendre vraiment très, très, très haut. Et les séances, encore maintenant, sont tellement rares. Tout laisse à croire que, bon, pour la Cinémathèque française, le prestige a dû lui plaire, il a accepté, mais autrement, ça doit être très, très, très compliqué. Ce qui nous arrive au film, qu'est-ce qui a fait dire au producteur, mais qu'est-ce que c'est ça? Le film, c'est la source d'inspiration d'I'm Not There, dans la mesure où on a plusieurs récits parallèles qui se chevauchent ou pas. Tout est dans l'interprétation de ce que le spectateur va se faire du film. D'abord, comme je disais, il y a des scènes de concert qui ont été tournées durant la période où Dylan se maquillait le visage en blanc sur scène. Et quand je disais que c'était des images de concert rock pas très intéressantes, j'étais très injuste parce qu'il y a des très beaux moments. C'est des très, 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 très belles prestations. Le film se termine sur Knocking on Heaven's Door. Et à mes yeux, c'est la plus belle performance que Bob Dylan a faite de cette chanson-là. Okay. C'est absolument magnifique. À ça s'ajoutent des éléments documentaires. Donc, Dylan...
Donc, footage de concert, histoire parallèle qui se chevauche, non, et documentaire.
Image documentaire, puisque là, Dylan va, en 4 heures, on s'entend, il a énormément de temps, et comme son film est un gros patchwork, il peut se permettre d'aller dans toutes les directions qui lui plaît, il y a une partie documentaire sur les Black Panthers. Et c'est un très, très long passage où là, il n'apparaît pas à l'écran, mais il va interviewer des Black Panthers.
Est-ce que ça fait-tu tout ça ou c'est du gros...
C'est... Curieusement, c'est pas aussi... c'est pas aussi hétérogène que ce que je semble dire. Parce qu'à un moment donné, on sent qu'il y a quand même... On n'a pas encore abordé de plein fouet l'influence que... Ben d'abord...
La 17e édition de MUTECH se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, 2 soirées-club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutech.org.
Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale, tendance et branchée dans Ville-Marie.
avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.